Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
C'est l'histoire d'une gamine de 15 ans, Anne, qui habite Dijon, et qui un jour de juin 1988 reçoit un courrier de sa gynéco. Elle est allée la voir il y a quelque temps pour un problème de mycose, dont elle n'arrive pas à se débarrasser. La gynéco lui a prescrit des examens, elle les a faits, et elle a dû recevoir les résultats. C'est pour ça qu'elle veut la voir. Concernant ces mycoses, bon, Anne a 15 ans, certes. Mais elle croque la vie, quoi. Elle est jolie, en plus, des origines kabyles, le minois hâlé, de longs cheveux bruns ondulés. Elle fréquente des garçons, plus âgés, et aussi des pas très fréquentables. Que voulez-vous ? Les hormones ont leur logique, assez éloignées de la raison, en général. Donc les mycoses, c'est embêtant, mais c'est à moitié étonnant. Et la voilà donc dans la salle d'attente de sa gynéco, avec sa maman, qui attend. Ah, la voilà.
Bonjour madame. Bonjour Anne. Si ça ne vous ennuie pas madame, j'aimerais parler à Anne, seule à seule.
Bon, la gynécologue emmène Anne dans son cabinet. Et elle n'y va pas par quatre chemins. Elle a fait médecine, pas psychologie.
Anne, j'ai les résultats de vos analyses. Vous êtes porteuse du virus du sida.
Je ne sais pas exactement ce que c'est le virus du sida. Je sais que c'est un virus qui se répand dans la communauté gay et toxico et que tout le monde en meurt. Et donc pour moi, je sais juste que... Je me dis juste que c'est une sacrée tuile et qu'a priori, je ne vais pas vivre, quoi.
Et Anne s'effondre en larmes. Et tout de suite, elle sait, hein. Elle sait qui lui a refilé le virus. Ce mec avec lequel elle a couché l'année dernière. Ce toxico de son quartier, ravagé à l'héroïne. C'était rien de sérieux. Ça n'a pas duré en plus. C'est nul. Pendant ce temps-là, sa mère est toujours dans la salle d'attente. Et à un moment donné, l'intuition sans doute. Elle entre. Et elle voit sa fille en larmes.
Mais qu'est-ce qui se passe ? T'inquiète pas, maman. Je suis pas morte. Pas encore.
Objectivement, elle n'a pas tort, Anne. Elle est assez lucide pour une gamine de 15 ans. Dans les années 80, dire à quelqu'un qu'il a le virus du sida, c'est lui annoncer qu'il va mourir. En 1988, il n'y a rien à faire contre le sida. Rien. Le virus n'a été identifié qu'il y a 5 ans. Par des Français, au passage. Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi. C'est tout frais. Et on est complètement démunis. On accompagne les malades jusqu'à la mort et c'est tout ce qu'on peut faire. Ce jour-là, dans la voiture, sur le chemin du retour, Anne et sa maman n'échangent pas un mot. Et pour combler le silence, Anne glisse une cassette dans l'autoradio. C'est sa chanson du moment, de Rod Stewart. Et quand elle arrive chez elle, Anne va directement s'enfermer dans sa chambre. Et elle reste comme ça, prostrée, pendant des heures. Et puis c'est une fille qui a du ressort. On en a toujours plus quand on a 15 ans. Elle a ça en elle. Elle se dit « Il me reste quelques années à vivre, eh bien je vais les vivre à fond. » Donc, comme elle pratique l'escrime à haut niveau, eh bien le soir même, elle enfile ses tennis et elle court ses 8 km de préparation physique. C'est pas une héroïne. C'est sa nature, aller de l'avant. Elle a ça dans le sang, au moins autant que le sida. Et peut-être même plus, mais n'allons pas trop vite. 10 jours plus tard, Anne a rendez-vous à l'hôpital de Dijon avec un médecin spécialiste du sida. C'est un grand monsieur, grisonnant, qui lui explique sa maladie.
Pour l'instant, vous n'avez pas le sida. Pour l'instant. Vous avez ce qu'on appelle le VIH, et l'évolution vers la phase sida est en moyenne de, je dirais, 7 à 11 années. Et c'est cette phase du sida qui conduit à la mort de l'organisme.
Donc, il lui reste entre 7 ans et 11 ans à vivre.
Il faut tout de même que je vous dise quelque chose. Je dois être honnête avec vous. Nous ne sommes pas à l'abri d'une évolution éclair. Moins de 3 ans. Malheureusement, ça arrive.
Et les médicaments ? On lui donne des médicaments ? des perfusions de glucose, autrement dit du sucre, à l'hôpital une fois par semaine, et du Zovirax. C'est un anti-herpès. On pense à l'époque qu'il a des vertus contre le VIH, ce qui est totalement faux, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a en magasin. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez que vous vous effondreriez. La mort, possiblement demain, aucun médicament, à 15 ans, vous vous dites, moi je me serais effondré. Eh bien, pas elle, pas Anne. Elle a du ressort, je vous l'ai dit.
Il y avait une logique de réussite sociale, en tout cas. Et puis surtout, effectivement, une grande confiance en moi. J'ai plus eu confiance en moi par la suite qu'avant, parce que finalement, quand on va mourir, bah, rien n'est trop beau, rien n'est impossible, faut tenter, c'est pas très grave si on rate.
Seulement voilà, quelques mois plus tard, c'est la tuile.
Anne, ton taux de CD4 est passé sous la barre des 500. J'ai peur que ton système immunitaire soit en train de flancher. Il va falloir que tu passes assez vite sous AZT.
Aujourd'hui, 500 de CD4, on ne paniquerait pas du tout, mais à l'époque, on a la trouille. Donc, il faut qu'elle passe sous AZT. L'AZT, c'est un antirétroviral, ça fait remonter les fameuses cellules CD4 et ça freine l'évolution. Elle en a vu, Anne, à l'hôpital, des malades sous AZT. Ça fait peur. Ils sont complètement décatis, épuisés, des zombies. Elle n'a pas du tout envie de ça. Elle ne veut pas devenir un zombie. Elle a son sport, ses études, tout ça, c'est impossible sous AZT.
C'est hors de question. Si vous pensez que je vais vous laisser décider de ma vie pour un taux de CD4 qui vient de basculer, vous vous trompez complètement. Je ne passerai pas sous AZT.
Elle a du caractère, Anne. Alors elle dit non. Elle dit non à l'AZT et tant qu'à faire, elle envoie aussi bouler l'hôpital et les médecins et les mourants. Oui, vous avez bien entendu. Anne a décidé de vivre. Point.
C'est peut-être paradoxal, mais ça m'a affranchi de certaines choses. C'est-à-dire, j'avais peur de rien. Jamais. Tout me devenait possible. J'ai développé cette envie de faire bien les choses et surtout qu'on ne m'associe jamais les stigmates de la maladie.
Et Anne se jette à fond dans les études. Elle décroche son bac scientifique, une place en prépa HEC, et ensuite elle intègre l'école supérieure de commerce de Dijon. Et pour autant, elle ne lâche pas l'escrime. Elle décroche même le titre de championne de France par équipe à l'épée. Et pendant tout ce temps, elle tient le VIH à distance. Malade ? Mais non, elle n'est pas malade. Et d'ailleurs, elle ne le dit à personne. Il n'y a qu'elle, ses parents et les médecins qui sont au courant. Elle ne fait qu'une seule entorse à ce secret. Et elle va bien le regretter. À l'été 1990, elle a 17 ans et elle fait un séjour aux États-Unis, dans une famille, à New York. Des gens très bien. Elle est psychologue et lui est militaire. Ils n'ont pas d'enfants. Ils aiment beaucoup Anne. Alors un soir, ils rentrent du cinéma et ils lui parlent d'un de leurs copains qui a AIDS, le sida en anglais. Et comme elle se sent en confiance, elle leur dit « I've got AIDS too. Moi aussi j'ai le sida. »
J'avais déjà un petit peu imaginé qu'il fallait que je leur dise, mais pas parce que j'avais envie qu'ils le sachent, mais parce qu'à ce moment-là, on ne parle que de traitement aux États-Unis. Je m'étais dit, ces gens-là qui se sont pris d'affection pour moi, peut-être qu'ils vont pouvoir m'aider à accéder à des traitements. Et donc je me dis, bah, c'est le moment. Donc je leur dis, bah oui, je sais ce qu'est le AIDS, parce que j'ai le AIDS. Et je sens un blanc énorme dans la voiture. Et ils me disent, mais enfin, tu sais ce que veut dire AIDS, quoi. Oui, je sais ce que veut dire AIDS et j'ai bien le AIDS.
Le soir même, vous entendez ? Le soir même, les deux amerlocs appellent les parents.
Nous sommes navrés, madame. Mais on ne peut pas garder Anne avec nous. Il faut qu'elle rentre vite.
Le lendemain matin, elle doit prendre l'avion pour Paris.
Ça va marquer un tournant sur le fait que je me dis, je ne parlerai plus jamais à qui que ce soit de ma pathologie. Parce que ce qui peut arriver si je parle va bien plus m'impacter à titre personnel dans mon existence que la maladie elle-même. Et donc, je décide de ne plus jamais parler à qui que ce soit.
À partir de ce moment-là, Anne ne le dira qu'aux hommes dont elle tombe amoureuse. Sauf que là, c'est pareil. Hein. La plupart des mecs se carapatent en courant. Ils ne disent pas toujours les choses. Ils la préservent parfois, mais ils se barrent. Et elle s'obstine, elle les supplie. Ça ne sert à rien. Et ça lui fait beaucoup de mal. En 1991, Anne a 18 ans et elle tombe amoureuse d'un homme qu'elle connaît depuis toujours. Et ça, ça change la donne. Même si jusque-là, il n'était pas au courant.
C'était beaucoup plus facile, effectivement, à dire à quelqu'un qui vous connaît depuis longtemps, qui a une maturité plus importante et qui, a priori, avait une capacité à pouvoir prendre ça. Voilà. Donc, il a fallu ça, la maturité, quelqu'un qui vous connaît avant ça. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un que vous rencontrez qui va vous connaître à partir de là et avec ça. C'est quelqu'un qui me connaissait avant. Donc, je pense que ça a beaucoup aidé.
Elle a 18 ans et lui 27. Et quand elle lui dit « j'ai le VIH », il ne se barre pas en courant. Il a 2 enfants et comme elle pense qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfants à cause du VIH, eh bien elle les aime comme une mère. Et les années passent. À 22 ans, elle décroche son diplôme et elle est recrutée comme auditrice financière dans une grosse boîte de la région. Et l'année d'après, elle se marie. Jusque-là, tout va bien. Ça fait 7 ans qu'elle a contracté le VIH. Anne n'a pas encore développé de symptômes. Elle a eu bien raison, au fond, d'envoyer bouler les médecins. Elle n'en a pas eu besoin. Mais maintenant qu'elle a une vie à défendre, maintenant qu'elle n'est plus toute seule, maintenant qu'elle est amoureuse, elle reprend tout doucettement le chemin de l'hôpital. Parce qu'il y a eu des progrès depuis 7 ans. Les bithérapies, l'association de 2 médicaments, c'est plus efficace et beaucoup moins violent que la ZT. Bon, ça ne guérit pas du virus, hein, mais ça ralentit sérieusement sa progression. Et puis, quelques temps après, les Américains mettent au point les trithérapies.
Peut-être un tournant important dans la lutte contre le sida. Les Américains viennent de mettre au point un nouveau traitement qui donne des résultats, semble-t-il, très prometteurs. Le principe de base est simple, c'est l'association de 3 médicaments.
La trithérapie permet vraiment d'enrayer la progression du VIH, de regagner du terrain sur la maladie. Et ça, c'est nouveau. Alors Anne n'hésite pas. Et pourtant, c'est lourd. Hein. Diarrhée, nausée, insomnie, vomissement. Elle fait face, toujours sans rien dire. Personne n'est au courant. Et à partir de là, hormis les effets secondaires, Anne vit presque normalement. Vous vous rendez compte? Il y a 10 ans, on lui avait dit « Vous avez le sida, Anne !» Elle pensait mourir à 20 ans. Et là, elle en a 25 et bah ça va. Un bon métier. Bon, elle divorce de son premier mari, mais elle rencontre un autre homme. Qu'est-ce qui lui manque? Eh bien, des enfants. Ça, elle a fait une croix dessus. Hein. Elle ne veut pas prendre le risque de mettre au monde un enfant atteint du VIH. On lui a toujours dit que ça ne serait pas possible. Alors quand en septembre 2000, le professeur qui la suit lui dit
« Anne, je ne sais pas si vous y avez pensé, hein. Mais votre état de santé, désormais, vous permet d'envisager la maternité.
D'après vous, maintenant que vous la connaissez un peu, avec son caractère, eh bien, elle y va.
Je n'ai aucun risque de contaminer mon bébé.
Non.
Et mon compagnon, parce que, évidemment, si on veut un enfant, il ne doit pas mettre de préservatif. Le risque est minime, très minime.
Et à l'automne 2000, Anne a 27 ans et elle tombe enceinte. Et Marie naît en juillet 2001. Et 3 ans plus tard, un petit garçon, Pierre. Voilà. La vie continue, avec des hauts et des bas. Quand Anne écrit son livre en 2010, Un mal qui ne se dit pas, dans son esprit, c'est comme un testament. Ça va pas trop. Les traitements l'épuisent. Elle pense que c'est la fin, que la maladie a gagné. Et puis non, elle change de protocole et elle est là. 30 ans plus tard, elle est là.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.